Merci beaucoup pour ce témoignage. On passe maintenant à la présentation de Jean-Louis Mandel, professeur au Collège de France, Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg, et qui va donc nous parler aussi de la cohorte radico-génita. Merci beaucoup.
Voilà, merci. Donc, merci pour cette invitation et merci à Radico, aux experts, d'avoir pris ce projet un peu différent des autres et qui est beaucoup moins avancé aussi parce que c'est quelque chose qui n'existait pas du tout et donc que l'on appelle Génida en anglais parce que sa vocation à être un projet international et multilingue et qui concerne les déficiences intellectuelles avec ou sans autisme d'origine, disons, vraiment fortement génétique, c'est-à-dire où il y a vraiment une cause génétique, que ce soit une cause monogénique ou éventuellement des copy number variants spécifiques. Et donc, c'est pour le moment, ça a débuté avec les moyens du bord, et les moyens du bord sont assez limités. C'est pour ça qu'il y a l'University of Strasbourg, Institute of Advanced Study et Collège de France qui ont donné un peu d'argent, mais il va falloir effectivement pouvoir avoir plus de choses. Et c'est une collaboration donc entre des généticiens, mon équipe à l'IGBMC, notamment un postdoc Florent Collin, et puis, juste à côté, des informaticiens qui nous aident à mettre en place ce qui est, en fait, l'idée de pouvoir aborder l'histoire naturelle de ces causes génétiques qui sont d'une extraordinaire hétérogénéité. Patrick Calvas a parlé d'hétérogénéité, mais pour la déficience intellectuelle, c'est bien pire. Comme c'est d'une très grande complexité, il y a à l'heure actuelle certainement déjà au moins plus de 500 ou 600 causes génétiques identifiées. Ça continue à augmenter, je dirais, presque chaque semaine. Et donc, on atteindra probablement les 800 ou peut-être 1000. Et on s'est dit que si on voulait vraiment pouvoir aborder l'ensemble de ces nombreuses causes, eh bien, la cohorte traditionnelle ne nous mènerait pas suffisamment loin parce que chaque cause est extrêmement rare, ou la plupart. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est la création, en fait, d'une base de données basée sur un réseau social où c'est les familles qui vont rentrer l'essentiel des données. Qui vont aussi permettre à ces familles de communiquer entre elles et de communiquer avec les professionnels. Alors, juste simplement, la déficience intellectuelle, c'est vraiment pas une maladie rare, ou est-ce que c'est une maladie ? En tout cas, c'est une condition, puisqu'on estime que, disons, chez les enfants et les jeunes adultes, c'est à peu près 2% de la population. Alors, il y a des causes environnementales, mais on estime que plus de 50, peut-être 60%, les données de NIMEC, par exemple, suggèrent ceci, sont des causes génétiques, je dirais, simples, où il y a vraiment une cause unique, ou disons en tout cas très, très majoritaire. Mais il y a certainement aussi du multifactoriel, du digénique, mais ça sera beaucoup plus difficile à analyser. Donc, les anomalies chromosomiques, trisomie 21, etc., c'était bien connu. Depuis, je dirais, à peu près près d'une dizaine d'années maintenant, il y a eu l'explosion des copy number variants grâce aux techniques de CGHRA. Il y a là aussi une très grande hétérogénéité, mais où quelquefois il y a des choses qui ont été trouvées chez un ou deux malades. En plus, c'est des copy numbers, c'est des délétions qui ne sont pas de la même taille, et donc il n'y a pas le même nombre de gènes entre deux patients, donc ça devient quasiment impossible à comparer. Par contre, il y en a un certain nombre qui sont récurrentes, et donc là, on peut constituer des cohortes de gens qui ont la même chose. Et puis, grâce, je dirais, au séquençage à haut débit, il y a eu récemment l'explosion de la connaissance génétique. Alors, on avait déjà pas mal de choses sur les causes autosomiques récessives et les causes liées aux chromosomes X, parce que c'était plus facile à identifier les gènes. Et puis, il y avait des familles. Et donc, rien que sur le chromosome X, par exemple, il y a environ 100 gènes qui, lorsqu'ils sont mutés, sont responsables de déficiences intellectuelles, syndromiques ou non syndromiques, associées à d'autres phénotypes, etc. Mais ce qui était quasiment inconnu, c'était les causes autosomiques dominantes. Et pour cause, quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, si elle est un peu sévère, a peu de chances d'être dans des conditions, ne serait-ce que sociales, pour avoir des enfants. Donc, il n'y a pas de transmission d'une génération à l'autre. Et donc, ce qu'a permis de voir le séquençage à haut débit, c'est qu'en fait, il y avait un nombre important de patients qui sont liés à des mutations de novo, c'est-à-dire des mutations qui ne sont pas présentes chez les parents et qui sont présentes chez l'enfant. Alors, c'est très important parce que, par exemple, pour la famille, le risque de récurrence n'est pas très élevé. Mais ça fait exploser le nombre de gènes maintenant qu'on connaît et qui, ça continue à s'accumuler, parce que le problème, c'est que quand on trouve une mutation de nouveau dans un gène qui n'a jamais été publié comme étant associé à la déficience mentale, on n'est pas sûr que c'est responsable de la déficience intellectuelle chez cet enfant, et donc il faut accumuler des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes cas, donc c'est assez compliqué. Oui, peut-être, je vais juste... Donc, c'est une condition donc finalement fréquente, 2% de la population, mais qui est en fait en grande partie la somme de maladies génétiques rares ou même très rares. D'autre part, il y a des comorbidités majeures. Ce n'est pas juste la déficience intellectuelle. Et d'ailleurs, Patrick Calvas disait du côté, je dirais, ophtalmo, le problème de la comorbidité avec des déficits cognitifs. Eh bien, donc, comorbidité majeure avec l'autisme, puisqu'on estime qu'à peu près 40 à 50% des patients qui ont un diagnostic d'autisme ont une déficience intellectuelle, et dans le sens contraire, à peu près, je dirais, 30% des patients avec déficience intellectuelle ont, sinon un diagnostic d'autisme avéré, mais au moins des symptomatologies autistiques. Mais il y a aussi une comorbidité importante avec l'épilepsie, avec d'autres troubles neurologiques, avec des troubles du comportement, et ça peut être aussi avec des troubles oculaires, avec des troubles gastro-entéro, etc., en fonction, je dirais, probablement du gène concerné. Voilà. Et donc, tout ceci maintenant, en tout cas, on va être capable de plus en plus de donner un diagnostic aux familles. Alors là, l'errance diagnostique dans la déficience intellectuelle était énorme, parce qu'en plus, c'était quand même considéré relativement peu comme un problème médical, mais surtout comme un problème éducatif, un problème social, et pas tellement un problème médical. Donc, on va faire de plus en plus de diagnostics, et le problème, et c'était aussi dit, je crois, par Anne-Sophie Lapointe, ou là, c'est qu'est-ce qu'on va dire aux parents quand on dit, voilà, vous avez une déficience, votre enfant, il a une mutation dans le gène, je ne sais pas moi, DIRK1. Il dit, alors, ça donne quoi, et ça, quelle est l'évolution, etc. Ben, ça, on n'en sait rien, parce qu'il y a 3 cas qui ont été décrits au temps T, et on ne sait absolument pas ce que ça va pouvoir donner. Donc, effectivement, comment on va décrire pour chaque gène des caractéristiques cliniques associées, l'histoire naturelle, la sévérité, peut-être aussi la pénétrance des mutations. Alors, encore plus difficile, et je ne suis pas sûr que notre projet permettra, parce que ça, c'est une telle complexité, c'est une mutation particulière, un faux sens. Est-ce que c'est complètement pénétrant? Est-ce que c'est pathogène? C'est non pathogène? C'est partiellement pathogène, ça? Ensuite, les familles, et c'est évident, ont envie de communiquer entre elles, mais ont envie surtout de communiquer entre les familles qui ont exactement un déficit dans le même gène. Parce que si on dit, d'accord, vous pouvez voir comment est-ce que la prise en charge, mais pour un enfant qui a soit pas de diagnostic ou un diagnostic différent, on dit, d'accord, c'est intéressant, mais ce qu'on aimerait savoir, c'est vraiment pour la même cause, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et puis, On dit toujours, évidemment, c'est dans tous les papiers, dès qu'on a trouvé le gène, on dit ça, ça va permettre de faire des études physiopathologiques et d'avoir des stratégies thérapeutiques. Eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Et même pour des maladies relativement fréquentes, dans le cadre du retard mental, déficience intellectuelle, le retard mental AVX fragile, gène découvert en 1991, des grandes pharmas comme Novartis et Roche qui s'y intéressent, qui font des grandes études cliniques, et patatras, les études cliniques avec plein d'études précliniques sur la souris, sur la drosophile, sur ce que vous voulez. Après l'échec de ces grandes études cliniques, elles arrêtent les frais, en tout cas pour le moment. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme il y a des troubles, notamment des troubles du comportement, etc., les médecins vont donner au moins, en tout cas, des thérapeutiques symptomatiques. Et la question, c'est est-ce que certaines de ces thérapeutiques symptomatiques interagissent avec l'anomalie génétique particulière et font soit, dans le meilleur des cas, que ça va bien marcher, mais surtout, dans d'autres cas, que ça va être catastrophique. Comment savoir pour des choses aussi rares que ça? Et juste quelques exemples. Il a fallu à peu près 3 ans pour s'apercevoir qu'une délétion dans 16P11.2 qui avait été décrite d'abord dans une cohorte de patients avec autisme. Bon, c'était dans 0,3% des patients de cette cohorte qui avaient la délétion 16P11.2, mais enfin, c'était significatif. Donc, on dit, voilà, 16P11.2, autisme. En fait, on s'est aperçu que le phénotype le plus évident et le plus pénétrant, c'est une obésité souvent morbide et qui commence vers l'âge de 7 ans. Je ne sais pas pourquoi vers l'âge de 7-8 ans. Alors on peut se dire l'obésité, on n'a pas besoin d'être un très grand médecin pour reconnaître qu'un patient est obèse. Mais si on a vu qu'un seul patient, que par hasard il est obèse, on ne sait pas si cette obésité est liée à la... à cette délétion. Et puis, il y a la délétion 16P11.2, et puis il y a le miroir, la duplication 16P11.2. Eh bien, là, il y a un papier Nature, qui est un très beau papier, 180 auteurs pour décrire 100 patients, environ 2 auteurs par patient, parce que il y a celui qui a fait le diagnostic et celui qui a fait le phénotype. Donc, ça fait 2 auteurs par patient, et il y a environ... Il y a autant de centres d'institutions, 109 institutions, donc un patient par institution. Et donc, ça a été un travail gigantesque pour arriver à démontrer. Alors, la duplication, elle avait été plutôt décrite chez les schizophrènes, 0,3% de schizophrènes. Qu'en fait, ce qui concernait le plus les parents, c'était une grosse anomalie de type anorexie. C'était des gosses ou des adultes qui ne mangeaient pas. C'était une catastrophe d'arriver à les faire manger. Ça aussi... C'était ce que les parents trouvaient le plus évident. Mais pour s'en apercevoir, il fallait avoir plusieurs cas, pouvoir réunir, etc. Est-ce que tu as d'autres patients avec SSP11-2? Qu'est-ce qu'ils ont, etc. Donc, vous voyez que... Et ça, c'est quelque chose de relativement fréquent. Donc, si c'est fréquent, c'est relativement plus facile d'avoir des cohortes de patients. Mais quand vous avez des trucs rarissimes, comment vous allez faire? Donc, ah oui, alors ça, c'est un autre exemple qui m'avait été... donné par Christelle Nourricier. Elle était sur la liste, mais je ne sais pas si elle est là. Elle est excusée. Et qui me disait, voilà, les patients qui sont atteints de la maladie de Prader-Willi en France peuvent avoir une carte de soins et d'urgence. Et sur cette carte de soins et d'urgence, il y a marqué « contre-indication formelle aux benzodiazépines » et à tout autre médicament dépresseur respiratoire. Et, oula, il me reste 2 minutes. Bon, oui. Et donc, juste parce que je trouve que c'est important, Prader-Willi, c'est quelque chose qui est très connu. Il y a des centaines de publications sur la génétique moléculaire de Prader-Willi, l'imprinting, etc. Il n'y a aucune publication dans la littérature disant qu'il y a un danger avec les benzodiazépines. Pourquoi? Parce que, apparemment, alors, c'est quand ils sont adultes, ils peuvent faire des troubles psychotiques, des grandes colères. On va les calmer en injectant des benzodiazépines, et il y en a apparemment qui sont morts de dépression respiratoire. Aucune publication, parce que ça arrive hors cadre académique. C'est en France, c'est les pompiers qui arrivent, police secours, etc. On ne sait même pas, tiens, il a une dépression respiratoire, c'est probablement pas qu'il avait un Prader-Willi, on sait de toute façon pas ce que c'est un Prader-Willi. Donc, ce que j'avais proposé, c'était la première fois que j'avais présenté ça en 2012, c'est un projet de réseau social international, parce que c'est tellement rare que si vous décidez que vous allez juste recruter les patients que vous voyez dans un centre donné ou même dans les centres français donnés, vous n'en aurez pas suffisamment. Donc, international, ça veut dire traduit en plusieurs langues, réseau social pour les échanges d'informations spécifiques et des études cliniques de maladies génétiques très hétérogènes, notamment donc celles associées à la déficience intellectuelle. Donc, c'est les familles qui doivent rentrer les données, mais sur des échelles, des questionnaires, des échelles qui sont proposées par des professionnels, mais avec la possibilité aussi de réponses ouvertes, parce que s'il y a quelque chose qu'on n'a pas prévu comme question et qui, pour eux, est le plus important, il faut qu'elles puissent dire, nous, notre problème principal, c'est telle ou telle chose. Parce qu'effectivement, dans la déficience intellectuelle, par exemple, quand vous avez des problèmes gastro-intestinaux, souvent les familles pensent que ça n'a rien à voir. Et c'est seulement quand vous avez 5 ou 10 patients qui ont la mutation dans le même gène et que vous apercevez qu'effectivement, la moitié d'entre eux ont des problèmes gastro-intestinaux que vous commencez à savoir que ça fait partie, en fait, du problème familial. Et avec des possibilités, donc, que les familles concernées par le même gène puissent, si elles sont d'accord, si elles acceptent, interagir entre elles et interagir avec des professionnels. Voilà, donc je vais. Donc cette interaction avec les professionnels est quelque chose de très important. Juste pour donner un exemple, voilà un des derniers gènes de déficience intellectuelle qui a été identifié grâce aux exomes systématiques chez des cohortes d'autistes ou de déficients intellectuels. Dirkin A, chez nous, on a trouvé 4 patients sur 213 analysés. Et donc, on a fait de manière, je dirais, académique, une collaboration internationale avec tous les gens. Vous avez un patient, etc. On a un papier sous presse sur le phénotype associé à Dirkin A. Et il y a un groupe Facebook aux États-Unis qui a fait un groupe Facebook et qui a à peu près autant de patients. Et avec ça, c'est à droite. Ils ont recueilli les données cliniques sur les enfants qui ont une mutation d'IRK1A. Et ça colle très bien avec ce qu'on a observé. Donc, voilà donc, ce qu'on veut faire. Donc, c'est cette cohorte avec, évidemment, des professionnels qui sont advisory, mais aussi donc radicaux, évidemment, mais aussi des associations de patients. Et par exemple, à l'heure actuelle, on est en bêta-test de notre questionnaire et notre site web. Et c'est une association française qui est extraordinaire, qui s'appelle Extraordinaire pour les déficiences intellectuelles liées au chromosome X, qui nous aide là-dedans. Mais aussi le groupe Facebook américain, qui est très intéressé par ce qu'on fait. On a toute une série aussi de... on a tout de suite dit qu'il fallait que ça soit international. Donc, il fallait qu'on ait... des généticiens ou des pédopsychiatres, etc., dans divers pays qui sont d'accord pour nous aider et pour, par exemple, valider les traductions des questionnaires dans différents pays. Voilà, donc on a un site web qui n'est pas encore accessible pour tout le monde parce que c'est en bêta-test. Et puis, ce qu'on prévoit, c'est d'avoir, d'une part, quelque chose qui pourra être accessible avec des informations à tout le monde, mais pour ceux qui sont concernés, c'est-à-dire les patients et les familles, mais aussi les professionnels, possibilité d'avoir un login spécifique et d'avoir un accès, selon que vous êtes parent d'un enfant atteint ou selon que vous êtes professionnel, l'accès ne sera pas le même. Ceci ouvrira pour les familles la place à un questionnaire leur permettra de revenir, on espère peut-être tous les ans, tous les 6 mois, ou quand il y a un événement particulier, tout d'un coup ils disent, tiens, il a pris tel médicament et ça s'est mal passé, on a dû arrêter, qu'ils puissent rentrer cette donnée au moment où elle est rentrée et pas tous les ans ou tous les 2 ans on convoque et on a oublié que effectivement qu'est-ce qui s'était passé il y a un an auparavant. Voilà. Et donc voilà, on va avoir des questionnaires qui sont sous forme de menus déroulants pour essayer de faire qu'ils puissent être répondus facilement, qu'ils soient compréhensibles par les familles. Et c'est pour ça qu'on a l'association de patients qui nous aide à voir est-ce que c'est facile, est-ce qu'on comprend, etc. Voilà, il y a aussi alors tous les autres problèmes, est-ce qu'il y a des problèmes neurologiques, des problèmes rénaux, etc. Et puis à chaque fois, vous avez des sous-questionnaires. Alors, ce n'est pas du médical très, très précis, etc. L'idée, c'est que si on dit, voilà, il y a un problème gastro-intestinal qui a été trouvé chez trois patients avec le même, qu'il y a un professionnel qui va pouvoir, bon, ça mérite investigation, on va reconvoquer ou revoir avec la famille exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, il ne s'agit pas d'être, dès le départ, d'une précision extraordinaire, mais de pouvoir détecter, et de nouveau, ce qui est important pour les parents. Parce que quelquefois, pour les généticiens cliniciens, les dysmorphologistes, moi, je les admire beaucoup, ils sont capables de dire en disant « Tiens, moi, j'ai vu il y a 12 ans un patient comme ça, ça doit être le syndrome de machin-chose. » Mais souvent, ils se basent sur des aspects morphologiques qui ne sont pas le problème pour les parents. Le problème pour les parents, c'est est-ce qu'il y a un problème neurologique, est-ce qu'il y a des problèmes de comportement, etc. Voilà. Donc, je crois... Donc, où on en est ? Donc, on est en train de faire le bêta-test à la fois du site web et du questionnaire. Le dépôt CNIL, etc. Donc là, on a effectivement l'aide de Didier Bedin et j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes à avoir les autorisations. Et puis après, on va commencer une campagne d'information, recrutement des familles et la traduction du questionnaire. Il est pour le moment en anglais et en français, dans plusieurs langues, en italien, en espagnol, en tout ce que... et la recherche de financement. Voilà, je vous remercie.